Blagnac 73, troisième instruction.
Nous devons commencer à nous demander un peu ce qu'est la croix et ce qu'est la gloire, et comment il se fait que concrètement, dans les profondeurs du mystère de Dieu, ça ne fait qu'un. Je ne dis pas c'est la même chose, pas plus que le cœur et les poumons, c'est pas la même chose, mais le cœur et les poumons, ça ne fait qu'un. Ça ne fait qu'un seul organisme vivant, et tous les organes du corps ne font qu'un, en ce sens qu'ils concourent, chacun à sa place, à la même vie, à une seule et unique vie. Il y a, autrement dit, entre la croix et la gloire, une harmonie beaucoup plus profonde encore et beaucoup plus mystérieuse que l'harmonie qui règne entre les différentes parties du corps, entre les différentes fonctions physiologiques de la vie. Alors ça, bien entendu, nous avons beaucoup de mal à le comprendre, même à l'entrevoir, même à le pressentir, parce que ces deux notions, avec toutes les images qu'elles colportent, nous paraissent vraiment aux antipodes l'une de l'autre et en contradiction l'une avec l'autre. Être sur la croix, être dans la gloire, bah évidemment, pour dire, c'est pas pareil. Alors, il faut croire que les idées que nous avons à ce sujet sont courtes, aussi bien du côté de la croix que du côté de la gloire, pour que ça nous paraisse tellement incompatible et que nous soupçonnions si difficilement quelle est cette vie unique dont chacun de ces deux mots, chacune de ces deux réalités, car c'est deux réalités distinctes, est une face ou un visage. Alors, de la croix, qu'est-ce que nous retenons? Évidemment la souffrance, évidemment la mort. De sorte que nous sommes inclinés à considérer toute souffrance comme étant quelque chose qui relève du mystère de la croix. Et à ne pas voir autre chose dans la croix que justement cette souffrance et la mort qui y met un terme. De sorte que nous posons plus ou moins consciemment l'équation croix égale souffrance, croix égale mort. Et réciproquement, souffrance égale croix, du moins pour ceux qui acceptent de la recevoir comme telle, de l'offrir comme telle, de la subir comme telle, eh bien, toute souffrance, c'est une croix. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Par ailleurs, la gloire, là, évidemment, ça paraît tout à fait autre chose de magnifique, de délectable, de reposant parce qu'il n'y a plus de vicissitude dans la gloire, et on ne voit pas pourquoi on se méfierait, enfin. Première vue. Évidemment, il y a des choses dans la Bible qui nous invitent, comme je vous le disais hier, à soupçonner que c'est peut-être pas si facile que ça, et que si nul ne peut voir Dieu sans mourir, et si Thérèse d'Avila dit qu'il y a des grâces, et elle parle de grâce, elle ne parle pas de croix, il y a des grâces, des impacts de Dieu sur nous, auxquels il faut un grand courage pour faire face, parce que normalement on aurait peur. Alors ça, évidemment, ça peut nous donner à soupçonner que la gloire, c'est pas si facile à avaler que ça. Mais enfin, dans l'ensemble, ça nous paraît s'opposer radicalement et contradictoirement à la croix, et surtout à la croix du Christ, avec son côté ténébreux, horrible, sinistre et humain, tout bêtement humain, tout ce qu'il y a de plus aux antipodes de la glorification. De sorte qu'il y a tout de même bien deux temps pour nous dans le mystère pascal, le temps de la descente vers la mort, sans atténuation, sans consolation, la sueur de sang, et tout le reste. Et mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui est tout de même fort comme parole. Et puis la résurrection. Alors, je voudrais essayer déjà ce matin, sans peut-être, même sûrement pas, sans aller encore au fond des choses, je dois vous dire tout de suite d'ailleurs, que pour ce qui est d'aller au fond des choses dans ce domaine-là, si vous me permettez une expression assez familière, tant que nous sommes sur la terre, eh bien, on peut repasser. C'est-à-dire que on n'ira jamais vraiment jusqu'au fond des choses. Il n'y a qu'une seule manière d'aller au fond des choses, de ces choses-là, c'est d'en vivre. C'est de se laisser envahir et dévorer soi-même. C'est d'ailleurs ça, la vie contemplative, au fond, par ce mystère. Et ce mystère étant étroitement dépendant de ce que j'appellerais le visage de Dieu qui ne ressemble à rien, ce visage que l'œil de l'homme n'a pas vu, que son oreille n'a pas entendu, et qui n'est pas monté dans son cœur, ceux qui font ce voyage sont très vite amenés, si je voudrais dire, à se taire, pas par volonté de se taire, mais tout simplement par impuissance à parler. Et impuissance à mettre un nom sur ce qui leur arrive. Si c'est de la joie, c'est une joie d'une nature tellement particulière que n'ose plus appeler ça joie. Angèle de Foligno dit ce bien, ce souverain bien, qui est au-delà de tout bien quand il m'apparaît, quand il me prend, quand j'entre en lui, que je l'entrevois, j'ai l'impression que je blasphème en l'appelant un bien, tellement je perçois la distance incommensurable entre ce que peut vouloir dire ce mot de bien pour une créature humaine ici-bas, et puis ça, cette réalité. Je n'ose même plus lui donner un nom. Et tous les mystiques sont d'accord là-dessus, avec peut-être des tentations que ça peut comporter au point de vue doctrinal, j'y insiste pas, mais enfin, de toute façon, justement, il n'y a de tentation doctrinale que quand on continue à dire quelque chose, n'est-ce pas ? On ne peut se tromper que quand on parle. Hein ? Alors, ceux qui disent qu'on ne peut rien dire de Dieu, ils disent encore quelque chose. C'est en cela qu'ils sont en péril, n'est-ce pas ? Mais ceux qui ne disent plus rien, parce qu'ils ne peuvent plus rien dire, ben, il n'y a pas de danger. Ils ne disent rien. Mais c'est tout. Ils ne disent pas qu'on ne peut rien dire, ils ne disent rien. Eux ne peuvent rien dire. Quant à la souffrance, eh bien, les mystiques sont également assez unanimes pour dire non seulement qu'elle est compatible avec une joie aussi indéfinissable que celle dont je parle, mais que même en tant que souffrance et en ce qu'elle a de pire, il y a un moment où ce mot de souffrance ne convient plus. Consumata, la Marie-Antoinette de Gueuser le dit à un moment donné, elle dit ça ne s'appelle même plus souffrance, ça n'a plus de nom. Je ne sais plus quoi en dire. Donc de ce côté-là aussi, aussi bien par le côté douloureux que par le côté glorieux, ceux qui font ce voyage sont un peu acculés au mutisme. Alors, je ne suis pas acculé au mutisme puisque je parle, et je le regrette d'ailleurs, en même temps que vous pouvez vous en réjouir, très bien, mais moi je le regrette, parce que je crois que c'est Sainte Brigitte qui disait que si les prédicateurs savaient ce dont ils parlent quand ils parlent de l'amour de Dieu, eh bien, ils ne diraient plus rien. Alors, donc, dans la mesure où je parle, c'est que justement, je suis loin de cette perception qui rend muet. Bon. Mais sans en être là à loin près, j'avoue que, à force d'avoir ruminé ces choses pendant des mois et des années, et tout dernièrement, ça fait tout de même un mois et demi que j'en parle à peu près sans discontinuer, indépendamment de la question de la fatigue, il y a une espèce de nausée qui finit par s'emparer de l'esprit en face des idées qui ont pu le stimuler le plus au moment où il les a découvertes et qui continuent peut-être à stimuler ceux ou celles qui les entendent, mais qui ne stimulent plus du tout celui qui continue à les répéter. Ça vraiment, alors, de ce côté-là, j'avoue que m'aventurer dans le pareille région une fois de plus pour dire des choses qui me paraissent vraiment manet et selfares, légère et inconsistante en comparaison de la réalité, j'avoue que il faut un acte de foi, n'est-ce pas, que je fais volontiers. Et puis, je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment dire. Il faut, il faut me pardonner, vous, si je n'arrive pas à y mettre toute l'espèce de conviction humaine, psychique. Disons, hein, à ce moment-là, c'est pas la conviction intérieure qui me manque, au contraire, c'est parce que j'ai le sentiment que ce que je dis est beaucoup plus vrai que je ne le dis, et qu'il vaudrait mieux ne pas le dire, puisque c'est tellement mal dit. Alors on le fait quand même, n'est-ce pas? Parce qu'il faut le faire. Voilà. Alors, premièrement, la croix, ce n'est pas purement et simplement la souffrance. Ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Même acceptée, même offerte, c'est pas ça. Là, il y a une première grossièreté de notre esprit, qui s'imagine que n'importe quelle souffrance, si on l'offre, accueilli dans un esprit d'amour, ça peut s'appeler une croix. C'est vrai à condition que vous vous rendiez bien compte que le fait même d'offrir cette souffrance fait que s'incorpore à la souffrance. C'est pas, il n'y a pas une souffrance chimiquement pure qui serait comme si vous aviez un cadeau matériel à offrir. Vous voyez, le fait que vous offrez le cadeau, ça ne change pas le cadeau. Vous avez il pèse 3 kilos, c'est un bouquet de fleurs, c'est un paquet de bonbons, c'est, je voudrais, je ne sais pas. Bon, ouais, je le donne. Bon, ben, il est le même, n'est-ce pas? Là, c'est tout à fait autre chose. Nous offrons la souffrance. Mettons. N'est-ce pas? Mais il faut faire très attention à ne pas être pélagien. Qu'est-ce que ça veut dire pélagien? Bah, ça veut dire que nous approprions quelque chose qui vient de Dieu. À savoir, mais le fait même d'offrir, nous croyons que ça dépend de nous. Nous croyons qu'il suffit de le vouloir pour être capable d'offrir. Alors là, il faudrait peut-être quand même commencer à comprendre un peu les choses, et ça, dans la tradition chrétienne la plus stricte, au moins la tradition augustinienne, et sur ce point, je ne crois pas que les orthodoxes soient en tel différent avec nous, Le geste même d'offrir la souffrance est quelque chose de divin. Alors, si vous comprenez ça quand même, vous savez, ça va très loin. Nous sommes, je pense que certains ont pu être tentés, puis nous sommes plus ou moins tentés, toujours un peu la même chose, d'imaginer la chose en trois temps et en trois phases. Une épreuve se présente, une souffrance quelconque, une contradiction quelconque, un échec quelconque, soit physique, morale, tout ce que vous voudrez, ça peut aller jusqu'à la mort. Bien, elle se présente. Alors, qui est-ce qui en est responsable? Eh bien, la Providence. Alors ça, c'est, il y a un guichet, la Providence, qui, ça c'est comme un petit toboggan, vous savez, on fait rouler les paquets qui arrivent, hein, la Providence envoie une épreuve. Alors, et puis ça arrive au guichet de sortie, l'épreuve arrive. Bien. Cette épreuve, nous la recevons. Alors ça, c'est plus la Providence. C'est nous qui, selon notre liberté, voilà le schéma que nous avons dans la tête, accueille ou n'accueille pas, accepte ou n'accepte pas, supporte ou ne supporte pas, plus ou moins généreusement, plus ou moins courageusement, plus ou moins humblement aussi, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Bon, alors nous y mettons tout notre cœur, et dans tout ça, ni dans le premier temps, ni dans le second, il n'y a, à proprement parler, de divin, au sens tout à fait mystérieux du mot divin, du sens de ce visage de Dieu qui ne ressemble à rien. L'événement qui nous perturbe est humain. La manière dont nous l'accueillons et dont nous l'offrons, nous appelons ça surnaturel si on veut, mais enfin dans la mesure où ça dépend de la liberté, c'est encore humain. Et après, dans un troisième temps, et en guise de récompense, alors nous recevons soit un mérite, une sorte de papier qui nous est donné, comme quoi on l'a mérité. Quelque chose parce que on a su supporter ce qu'il fallait supporter comme il fallait le supporter, soit une grâce qui peut être une consolation, qui peut être une force, qui peut être un soutien qui nous permet de continuer d'ailleurs à tenir, soit même alors la gloire, la vie éternelle, si nous arrivons au terme de notre pèlerinage, que nous avons bien accueilli toutes les épreuves qui se présentaient, et bien finalement nous recevons la récompense. Bienheureux ceux qui pleurent, hein. Voilà, bienheureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Mais sur la terre, il est évident qu'ils ne le sont pas. Voilà le schéma que nous avons. Ce schéma qui nous menace toujours, hein, et particulièrement au moment des épreuves, justement, parce que la grâce de Dieu, on l'a en guerre à ce moment-là, eh bien, c'est un schéma qui engendre la tristesse. Et ce schéma est en bonne partie responsable de la parole de Nietzsche. Je croirai à leur sauveur quand ils auront l'air un peu plus sauvés. J'ai connu un médecin, il y a bien 15 ans de ça, qui, c'était une formation chrétienne, tiédeur habituelle de ceux qui font leurs études, qui passe entre 15 et 25 ans, il y a généralement souvent un moment de relâchement, n'est-ce pas, quand la grâce ne travaille pas de manière spécialement forte. Et, entre 25 et 30 ans, je pense que c'était vers la trentaine, il s'est décidé à faire une retraite auprès d'un père qui vient de mourir, dont je peux dire le nom, pour que vous priez pour lui, et parce que c'était un prédicateur extraordinaire, comme j'en ai peu connu, il s'appelait le père Roustan. Il faisait des retraites de 5 jours à Paray-le-Monial, où on a amené des charrettes entières de gens qui se sont convertis. Il avait une puissance de conversion auprès des gros poissons chers au curé d'Ars, qui était extraordinaire, et je viens d'apprendre qu'il est mort. C'est pourquoi je me permets de vous en parler, et de le nommer. En général, quand je parlais de lui, je ne le nommais pas. Maintenant, eh bien, il s'est converti donc à cette retraite, enfin il s'est converti, c'est-à-dire qu'il a retrouvé la pratique religieuse en suivant cette retraite du Père Roustan, et comme je le connaissais moi-même, le Père Roustan, j'avais apprécié l'impact extraordinaire de ces retraites, et que le Père Roustan connaissait un peu, et qu'il savait que j'habitais Nancy, et qu'il habitait Nancy, il lui a dit, allez voir le Père Modounier. Alors, il est venu me voir, parce que le Père Roustan disait lui-même, moi je fais le traitement d'attaque, comme on dit en médecine, hein, mais il faut qu'il y ait un traitement d'entretien, de préférence. Et c'est le grand défaut de mes retraites, c'est que c'est souvent un coup d'épée, non pas dans l'eau, mais dans les sables, qui se perd un peu dans les sables. On est converti, on est enthousiaste, car on sort de là très enthousiaste. Et puis, ça dure un mois, deux mois, trois mois, puis on ne sait plus quoi faire. Ça, on retombe dans la vie ordinaire et dans l'ornière quotidienne. Alors le Père Roustan n'avait trouvé qu'une solution à ce défaut grave, c'était de faire recommencer sa retraite. Mais là, j'étais peut-être pas tout à fait d'accord, parce que une fois, c'est extraordinaire, deux fois, ça va encore, mais ça produit pas déjà le même effet, tout à fait. On peut pas tout de même être surpris par un coup de gong aussi fort quand on prévoit ce qu'on va entendre, et on le prévoyait un peu, parce que c'était très strict, c'était moulé selon le schéma des exercices de Saint-Ignace, comprimé en 5 jours, n'y a pas beaucoup de variétés là-dedans. Enfin, il y avait des variétés d'exemples, bien sûr, mais la structure est toujours la même. Alors, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ça finit par plus rien faire du tout. Ça, c'est sûr. C'est comme dans les médicaments. Il y a une accoutumance, forcément. Et c'est un des dangers les plus lourds que courent les prêtres, d'ailleurs, et peut-être aussi quelquefois les religieux et les religieuses, c'est ce phénomène d'accoutumance à la parole de Dieu, qui est une chose assez redoutable. Ça ne fait plus d'effet. Ça, c'est embêtant. Il y a le remède, je vous le dirai, c'est que, je peux vous le dire dès maintenant, en deux mots, c'est que le premier effet produit par la parole de Dieu, qui est un certain effet de bouleversement, je dirais presque de l'âme et du corps, en tous les cas de l'âme et du psychisme, ce premier effet ne peut pas, en effet, se renouveler indéfiniment. On ne peut pas être bouleversé tout le temps par la parole de Dieu. Il y a une usure inévitable qui se produit quant à l'impact émotif de la parole de Dieu. Si donc nous voulons que la parole de Dieu continue à nous atteindre, à nous toucher et même à nous bouleverser, il faut accepter que ce bouleversement change de nature, devienne de plus en plus subtil, profond, austère, insensible, délicat, enfin, il faut être vulnérable d'une autre façon. La sensibilité s'émousse, c'est inévitable. Seulement la question est de savoir si chez ceux dont la sensibilité s'émousse, l'âme ne s'émousse pas. L'âme continue, d'une manière beaucoup plus douloureuse d'ailleurs, à vibrer et à avoir faim et soif de cette parole de Dieu, ou si elle aussi, elle s'émousse, et alors à ce moment-là, arrive le phénomène de la tiédeur qui est extrêmement dangereux. Ça, c'est vrai. Bon, fin de cette parenthèse. Donc, je ne pense pas, justement, que la répétition pure et simple de cette retraite pouvait suffire à préserver ces retraitants enthousiastes du phénomène de la tiédeur, justement parce que ceux qu'ils retenaient le plus, les malheureux, les pauvres, encore une fois, de cette retraite, bien souvent, c'était l'enthousiasme, c'était le tumulte affectif que ça avait produit sur eux, et c'est ce qu'ils attendaient qu'ils recommencent. Et ça recommençait pas, tout au moins pas autant. Alors, ils étaient un peu déçus, parce qu'ils ne comprenaient pas facilement qu'ils avaient été surpris une première fois. Or, cette surprise avait commencé tout de même par une sérieuse souffrance, le père Oustan n'y allant pas avec le dos de la cuillère, pendant les 2 premiers jours de la retraite, où il parlait, selon le schéma de Saint-Ignace, d'ailleurs, des fins dernières, du jugement, de l'enfer, des 3 sortes d'hommes, enfin, c'était pas drôle du tout. Comme il le disait lui-même, c'est une purge, et une purge, ben, avant, on se sent pas très bien, pendant, on se sent pas très bien non plus. Après, ça va mieux. Bon. Eh bien, au début, on se sentait pas bien du tout. Les 2 premiers jours, c'était d'ailleurs prévu, c'était dans le programme, on avait envie de s'en aller. Très nettement, très fort. Et puis, si on tenait le coup, alors, il se passait quelque chose. La grâce passait à travers un peu les douleurs de l'enfantement, ça se terminait par une bonne confession et une communion, et puis un repas, une agape fraternelle où chacun, enfin ceux qui voulaient, échangeaient, faisaient témoigner de leur conversion, c'était toujours très beau, et on partait de là, enfin, comme on dit, gonflé à bloc, enfin, c'était vraiment fantastique. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'il fallait que les 2 premiers jours recommencent. Vous comprenez, c'est toujours ce que je vous ai dit hier à propos des grâces qui arrivent comme ça, c'est qu'il faut que ça soit précédé d'une souffrance. Or, la souffrance, ils ne l'avaient plus. Ils étaient habitués. Ils y avaient passé, ils avaient avalé l'enfer, le jugement dernier, le péché, ça les traumatisait, ça les troublait, ça les perturbait de moins en moins. En conséquence, les journées de consolation les consolaient aussi de moins en moins. Il fallait qu'ils acceptent que ce qu'ils avaient subi les 2 premiers jours se renouvelle aussi, mais évidemment sous une autre forme, qu'ils souffrent de se sentir loin de Dieu, mais d'une autre manière beaucoup plus subtile que la première. La première, ils se sont sentis loin de Dieu comme des gros pécheurs. Après, il faut se sentir loin de Dieu d'une autre façon, autrement raffinée, que vous connaissez sans doute plus ou moins, autrement durable, autrement profond, et accepter que ça dure ce que ça durera, jusqu'à ce que vienne une consolation qui, elle-même, est autrement subtile, autrement durable et autrement profonde que la première. Bon, revenons-en à ce médecin dont j'étais chargé justement d'assurer la survie de la conversion et de l'amener peut-être à une nouvelle phase. Dans l'ensemble, j'ai pas eu beaucoup de consolation parmi ces braves gens, parce qu'encore une fois, ils s'en tenaient à ce qu'ils avaient reçu de la part du Père Roustan. Ils les avaient troublés puis consolés, mais ils voulaient troubler et consoler de la même façon. C'est toujours pareil, Ils ne voulaient pas facilement entrer dans quelque chose de plus fin. Vous voyez, ça. Alors, lui, c'était pas ça, il était prêt. Mais au bout d'un certain temps, que j'ai fait sa connaissance, je lui dis, mais enfin, chose qui va pas, vous êtes triste. Vous êtes vraiment triste. Et vous n'êtes pas triste parce qu'il y a ceci ou parce qu'il y a cela. Vous êtes triste fondamentalement. Et vous êtes triste en tant que chrétien. Vous n'êtes pas triste bien que chrétien. Votre christianisme est triste. Pourquoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit oui. C'est vrai. Oui. Au fond, pour moi, je reconnais la vie. C'est pas drôle. Et ça, il proférait là une très grande vérité sur laquelle nous reviendrons. Peut-être, si j'ai le temps. Parce que je peux pas tout vous dire, bien que je n'ai plus le dynamisme de parler que je pouvais avoir au début de cette série de prédications. Mais, donc il m'a dit, la vie n'est pas drôle, pour moi la vie, c'est une pénitence, et il faut la subir. Et comment voulez-vous ne pas être triste quand vous êtes en pénitence? Évidemment, à première vue. D'ailleurs, il avait aussi l'épître aux Hébreux pour lui, qui dit que notre éducation ne se fait pas dans la consolation et dans la douceur, mais dans la pénitence et dans les larmes. Voilà. Dit, vous voyez bien. Après cette vie, j'espère que ce sera autre chose. Ce sera autre chose. On pourra être heureux, mais pour le moment, non. Alors, tout ça me parut très vrai, et pourtant, j'avais l'impression que quelque chose n'était pas très juste là-dedans, c'est quelque chose qui marchait pas. Et quelque chose qui marchait pas, c'est qu'il ne semblait pas avoir un grand pressentiment de cette joie qui nous attend de l'autre côté. Et alors c'est là où je suis obligé de m'embarquer presque dans des contradictions. Je suis obligé de dire des choses qui paraissent contradictoires à première vue, et pour montrer qu'elles ne sont pas contradictoires, alors là il faut vraiment ramer dur au point de vue théologique, et je vous en demande pardon d'avance, mais autant vous étaler les choses d'abord sur la table comme ça, d'une manière apparemment contradictoire. Et puis on verra comment on peut s'arranger pour que ça ne soit pas contradictoire. Mais évidemment, je maintiens les deux choses qui paraissent contradictoires. À savoir que notre éducation se fait dans le chagrin, dans la pénitence, dans la douleur, dans l'exil, et que, toujours dans la même ligne, ce qui est plus profond que tout, c'est la foi, qui est au-delà de toutes les consolations, qui doit nous maintenir fidèles au-delà de toutes les consolations, et éventuellement sans aucune consolation. Donc dans une tristesse et une douleur sans nom et sans limite, et que nous devons attendre ainsi, comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître, le jour des noces, l'arrivée de l'époux, et que bienheureux ceux qui veillent en sachant attendre jusqu'au bout, je maintiens ça, d'une part, et de l'autre, je dis que tout ça est rigoureusement invivable, impraticable et dangereux même à prêcher, si on ne sait pas, je dirais par expérience, ce que c'est que la joie. Ce que c'est que la joie qui nous attend, la joie du ciel. Alors là, évidemment, je commence par maintenir assez férocement et farouchement le fait que la seule joie qui doit nous aider à supporter cette pénitence, c'est un avant-goût de la joie du ciel. C'est-à-dire que toutes les autres qu'on peut trouver sur la terre, alors celles-là sont particulièrement condamnées, non pas comme satisfaction, parce qu'il est bien légitime d'avoir des joies, des douceurs, des plaisirs et tout ce que vous voudrez, mais par rapport à cette grande pénitence qui consiste à vivre de foi pure, eh bien, il ne faut pas demander à d'autres nourritures que celle du ciel, le pain venu du ciel, à d'autres boissons que l'eau vive, promise par Jésus, de nous aider à supporter cette aridité. Ça, se tourner vers d'autres consolations, même spirituelles, même surnaturelles, c'est justement celle-là que dénonce Saint Jean de la Croix, les consolations, mais ça peut être aussi des consolations intellectuelles, ça peut être les consolations de l'action, ça peut être la consolation de faire du bien, ça peut être la consolation de prêcher, ça peut être la consolation de faire de la théologie, ça peut être ou de la musique, ou de la liturgie, ou même de la pénitence, pour ceux qui veulent se donner comme les angéliques de Port-Royal, la satisfaction d'être des gens très bien, parce qu'on fait des religieuses de grand ventre, hein, des religieuses de supérieures. Hein? Bon, eh bien, tous ceux qui cherchent des consolations de ce genre, sans parler des grosses richesses grossières, et qui demandent à ces consolations, c'est surtout ça, d'être des consolations par rapport à la grande désolation de la pénitence qui nous est infligée, d'attendre, ceux-là tombent sous le coup de la malédiction évangélique des riches. Soit qu'ils ne sont pas condamnés parce qu'ils sont injustes au point de vue social, ils le sont, mais c'est pas ça que dit Jésus-Christ, parce qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut se demander pourquoi ils sont injustes au point de vue social. Et on découvre que c'est parce qu'ils veulent trouver une consolation sur la terre. Ça, c'est fondamental. Et, voyez, autre chose est de recevoir les plaisirs et les douceurs, même les plus humaines, les plus simples, les plus banales, l'amitié, même manger, boire et dormir, tout ce que vous voudrez, les distractions, autre chose est de les recevoir et d'en jouir réellement. Autre chose est de s'en servir comme d'une consolation pour tromper l'ennui et le temps. Oui. Autre chose est de les utiliser à seule fin d'éviter la grande pénitence. À cette fin, de tricher avec la grande pénitence. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Ce que je vous dis là, prenez deux fiancés qui vont se séparer, mettons, parce que le fiancé part au service militaire, où il est fait prisonnier, ou tout ce que vous voudrez, où il doit faire un grand voyage, que sais-je. Bon, quelque chose de très grave, de très lourd, ils vont se séparer pour longtemps. Bien. Et avant de se séparer, ils font un bon repas, si vous voulez, moi je sais pas, quelque chose de ce genre. Il est parfaitement légitime de goûter le plaisir de prendre un bon repas. Mais si l'un des deux essaie d'oublier ou d'atténuer le chagrin profond de la séparation en se disant, je prendrai des bons repas, alors il triche. Vous comprenez? Il triche avec l'exil. L'exil humain. C'est très simple ce que je dis là. C'est une comparaison humaine très simple. Et on voit très bien. Celui qui, au contraire, prendra éventuellement des bons repas pour tenir le coup, pour justement ne pas tricher. Et puis celui qui, alors ce sera généralement en vertu d'une occupation plus noble, mettra toutes ses forces afin d'oublier son chagrin. Donc de s'endurcir un peu contre ce chagrin, de ne pas trop le sentir. Vous voyez la différence. Alors, donc là, pour le moment, il n'y a pas de contradiction dans ce que je dis, à savoir, nous devons faire supporter la grande pénitence, l'exil, sans chercher une atténuation du côté des nourritures terrestres. Voilà, c'est tout ça. Il ne faut pas que les nourritures terrestres et tous les plaisirs que nous pouvons très légitimement savourer sur la terre, ça c'est tout à fait d'accord. Et quand Saint Jean de la Croix dit rien, 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 ça ne veut pas dire qu'il est indispensable, il est interdit d'avoir du plaisir à manger quand on meurt de faim ou à boire quand on meurt de soif, ou à se reposer quand on meurt de fatigue. Ça, c'est idiot, vous comprenez? Mais ça veut dire qu'il ne faut pas demander à ces choses-là d'atténuer, et encore beaucoup moins de fuir, la grande pénitence de l'exil. Bon, ça, ça va. Si aussi, c'est sans grand problème, et c'est ce que j'appelle la vérité de ce que disait ce médecin, la vie n'est pas drôle, et ce que disait le Christ, eh bien, celui qui veut être mon disciple, qui porte sa croix chaque jour. Ouais, ça revient à ça. Il n'est pas nécessaire de la porter avec héroïsme, ça c'est pas du tout dit dans le texte, et nous, c'est pas du tout ça, il n'est pas du tout dit qu'il faut la porter glorieusement, parfaitement, admirablement, saintement, tout ce que vous voudrez, non, plutôt lamentablement, si vous voulez, hein, portons lamentablement notre croix chaque jour, mais sans tricher. Et la croix, c'est avant tout ça, c'est cette grande pénitence de l'exil que Dieu est loin. Bon. Mais où le paradoxe arrive, c'est à propos de la grande et vraie consolation, celle que Dieu donne et qui est l'avant-goût du ciel. Ah, alors ça c'est une autre histoire, parce que celle-là, il n'a jamais été dit, malheur à vous qui cherchez cette consolation-là. Et il n'a jamais été dit même que ceux qui pleurent ne seront consolés que dans l'au-delà. Car, tout de même, quand le Christ dit dans l'Évangile, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui mange de ce pain qui est ma chair n'aura plus jamais faim, celui qui boit de cette eau qui est mon sang n'aura plus jamais soif », c'est tout de même pour maintenant. Et que de vous prenez mon joug sur vous, car il est doux et léger, et vous connaîtrez le repos pour vos âmes, et vous recevrez une bonne mesure serrée, secouée, tassée, débordante, c'est tout de même pour dès ici-bas. Et là, nous arrivons au paradoxe contradictoire que les récompenses des béatitudes sont à la fois pas pour maintenant et pour maintenant. Et c'est ça qu'on ne voit pas bien comment ça s'arrange. Hein. Si elles sont pour maintenant, ben, il n'y a plus de pénitence. Et il est certain qu'il y a des moments dans la vie des saints où ils ne sentent plus de pénitence, tellement ils sont inondés par les consolations de Dieu. Et si, au contraire, il faut garder la pénitence, eh bien, comment puis-je dire que cette pénitence même n'est possible à supporter et que la foi elle-même n'est possible à pratiquer que dans la mesure où nous possédons au fond de notre cœur, brûlant au fond de notre cœur, un véritable pressentiment de la récompense de la foi qui est la vie éternelle et l'eau vive promise par Jésus à ceux qui croiraient en lui. Comment puis-je dire ces deux choses-là à la fois? Voilà. Comment puis-je dire qu'il n'y a pas de pénitence sans joie? Alors que la pénitence, c'est précisément l'absence de la joie. Alors, je vous donne d'un mot la clé du paradoxe qu'il faudra développer, bien entendu. En fin de compte, il n'y a pas d'absence de la joie sans joie. C'est-à-dire que la joie ne peut pas être absente, douloureusement, et acceptée comme absente, si elle n'est pas secrètement présente. Et pour être secrètement présente, il est normal qu'elle soit de temps en temps manifestement présente. Alors ça, oui, c'est normal. Mais ça, c'est pas obligatoire. Ça, c'est pas toujours. Peut-être même qu'il arrive des cas où ça n'est jamais donné. Il suffit qu'elle soit secrètement présente pour alimenter, pour être la base de la grande pénitence et du mystère de la croix. Au fond, il faut que la gloire soit secrètement présente pour qu'il y ait la croix. Et c'est parce que la gloire est secrètement présente qu'on peut dire oui, d'une manière divine, et non pas à la force de notre volonté humaine, dans la paix et l'onction du Saint-Esprit, à la croix. Vous voyez? Alors, la plupart du temps, ce qui confirme cela, c'est que de temps en temps, assez souvent, dans la vie des saints, la gloire et la joie n'est pas seulement secrètement présente, mais manifestement présente. Alors à ce moment-là, on se rend bien compte que Dieu ne refuse pas du tout de nous consoler. Mais on dit, bah oui, mais ça ne dure qu'un temps, et après il se retire. Il se retire, oui, mais il ne se retire pas sans avoir laissé une trace, une blessure, un sillon, une marque qui fait mal, peut-être, mais qui est justement la permanence secrète et douloureuse de la joie et de la gloire qu'il a manifestée par moment. Vous voyez par exemple l'histoire de Bernadette, c'est extrêmement net, n'est-ce pas? Elle a vu la Sainte Vierge 18 fois, c'est quand même pas mal. Elle a connu la douceur du ciel sans aucune limite. Eh bien, on peut dire que c'est un jeu cruel auquel elle a été condamnée, parce qu'une fois que ça a été fini, ben c'était fini. Et elle n'a plus jamais connu cela. Elle ne l'a jamais connu cela. Mais attention, elle en a gardé le goût, elle en a gardé le souvenir, elle en a gardé la nostalgie, elle ne s'en est jamais remise. Or, ce n'est pas une question psychologique. Si c'était simplement un souvenir humain, ça n'aurait aucune portée, aucune valeur et aucune solidité. Si donc elle n'a jamais pu s'en remettre de cette douceur du ciel, c'est que cette douceur du ciel ne l'a jamais quittée. Seulement, c'était sous une forme qui, en plus de la douceur, comportait cette dimension qui s'appelle le mystère de la croix, alors que pendant les 18 visites, à part des contradictions qui n'étaient tout de même pas banales parfois, et des souffrances qui ont déjà été fort cruelles, comme lorsque la Sainte Vierge n'est pas venue à un des rendez-vous promis, mais tout de même dans l'ensemble, eh bien, la croix était effacée dans la gloire. Tandis qu'après, on a l'impression que la gloire était comme cachée sous la croix. Et de fait, elle était cachée, mais elle était là. Et non seulement elle était là, mais c'est ça que je voudrais essayer d'expliquer, et que je ne sais pas si j'y arriverai, parce que j'ai toujours la crainte de ne jamais y arriver à dire ces choses. Eh bien, non seulement la gloire était là, mais s'il n'y avait pas la gloire, il ne pourrait même pas, non seulement la croix serait insupportable, mais elle ne pourrait même pas exister, parce qu'elle fait partie des constitutifs qui compose la croix, comme, moi je ne sais pas, quand vous faites une sauce ou une potion magique, comme je ne sais quel album pour les enfants, eh bien, ils font un certain nombre d'ingrédients. Et si les ingrédients n'y sont pas, eh bien, c'est pas la potion. Il y a pour faire la croix, il faut un certain nombre d'ingrédients. Et le premier ingrédient nécessaire pour constituer, pour mettre quelqu'un dans le mystère de la croix, eh bien, c'est la gloire. Et cette gloire qui, un beau jour, finira par triompher de la croix, mais il faut qu'elle soit là dès le départ pour que la croix existe.